Une connaissance de guerrier. Il y a un dialogue constant qui se déroule dans l'esprit. C'est ceci, non c'est cela, ce devrait être ceci, ce devrait être cela, tu aimes ceci et tu n'aimes pas cela. Toutes sortes de voix, et dans de nombreux cas, ces voix ne sont absolument pas entraînées. Ce sont simplement des choses que nous avons ramassées ici ou là, et nous les trimballons avec nous. Ce sont des bagages dans notre esprit. Le Bouddha a dit que l'esprit peut être en paix seulement lorsqu'il est un. Mais pour la plupart d'entre nous, il y a 2, 3, 4, 5, 6 voix en concurrence, avec toutes leurs idées préconçues, et qui disent « tu dois faire ceci, tu dois faire cela ». Et à moins que vous ne les examiniez, elles peuvent vous obliger à souffrir de nombreuses manières. Nous nous accrochons à tellement de choses, non pas tant parce que nous les aimons, mais parce que nous craignons que si nous ne nous y accrochons pas, quelque chose de pire va se produire. Nous craignons que si nous ne faisons pas les choses de cette manière-ci ou de cette manière-là, nous allons tout ficher en l'air. Donc, nous nous accrochons et nous créons de la souffrance pour nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'esprit commence à s'établir, un des gros problèmes que vous devez traiter est celui de l'ensemble des différentes voies dans l'esprit qui se mettent en travers du chemin. Certaines d'entre elles sont aléatoires, d'autres sont plus persistantes, plus envahissantes, plus persuasives, plus affirmées. Vous devez apprendre à placer un point d'interrogation à côté de chacune d'entre elles. Si quoi que ce soit se met en travers de la concentration, placez un point d'interrogation à côté. Croyez-vous véritablement cela? Cette manière de penser est-elle vraiment correcte? Est-ce vraiment utile? C'est la question principale. Quelle est l'utilité de cette manière de penser? Lorsque vous commencez à vous poser cette question, vous commencez à voir combien vous vous êtes accroché à des choses que vous n'aviez jamais vraiment examinées auparavant. Vous les acceptiez simplement parce que d'autres personnes disaient qu'elles étaient vraies, ou parce qu'elles avaient l'air correctes, ou peut-être qu'elles avaient marché une fois, et ensuite vous vous y êtes accroché par habitude. Donc, vous devez en faire une règle pour vous-même. Une voix qui n'a pas été examinée ne vaut pas la peine qu'on l'écoute. C'est la raison pour laquelle le Bouddha a dit qu'il n'y a pas de jhana sans discernement. Pas de discernement sans jhana. Pas de concentration ferme sans compréhension. Pas de compréhension sans concentration ferme. Les deux vont obligatoirement ensemble. En d'autres termes, vous devez avoir au moins une certaine compréhension du fonctionnement de l'esprit avant de pouvoir vraiment vous établir. Sinon, vous allez vous laisser avoir par tous les vieux tours que l'esprit se joue à lui-même lorsqu'il dit « tu dois penser à ceci, tu dois t'impliquer dans cela, tu ne peux pas négliger ceci, tu dois faire attention à cela ». Vous avez besoin d'apprendre à ne pas vous laisser tromper par ces voix. Elles ne sont que cela, rien que des voix désincarnées qui flottent dans l'esprit. Apprenez comment placer un point d'interrogation à côté d'elle en vous disant « je me demande si c'est vraiment vrai. Peut-être puis-je examiner ceci à un autre moment. » Ensuite, mettez le problème de côté et retournez au travail en vous focalisant sur la respiration. Lorsque l'esprit devient de plus en plus silencieux et calme, vous commencez à percevoir ces voix plus clairement et d'autres voix qui se cachaient hors de votre vue, commencent à remonter à la surface. C'est ainsi que ces deux processus, celui de rendre calme et celui de comprendre, cèdent l'un l'autre. Plus vous êtes silencieux, plus vous pouvez voir. Plus vous pouvez voir, plus vous êtes capable de trancher les perturbations subtiles qui empêchent l'esprit d'être silencieux. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas une chose telle qu'une technique de tranquillité séparée ou une technique séparée de vipassana. Quelle que soit la technique que vous suivez, quelle que soit la chose sur laquelle vous voulez que l'esprit se focalise ou fasse de manière intentionnelle. Il s'agit là d'une technique de concentration. Vous pouvez faire la concentration. Vous ne pouvez pas faire la vision pénétrante. La vision pénétrante est quelque chose qui apparaît lorsque l'esprit devient calme, et souvent, c'est quelque chose d'inattendu. Vous ne pouvez pas en tracer les grandes lignes en vous disant « D'abord, je vais obtenir une vision pénétrante dans le domaine de la co-apparition en dépendance, et ensuite dans celui du passoi. » Ces choses-là varient d'une personne à une autre, ce que vous pouvez apercevoir et questionner lorsque vous faites votre travail. C'est comme la différence entre un artisan et un artiste. Un artisan possède une technique particulière, une habileté particulière qu'il utilise, et il peut devenir très bon dans ce domaine. Mais à moins qu'il ne développe la curiosité qui lui permettra d'améliorer son art, il restera toujours un artisan. Mais si vous commencez à exercer votre ingéniosité, « Bon, si j'essayais ceci, si j'essayais cela, questionnant ceci, questionnant cela, essayant ceci, essayant cela, c'est alors que vous devenez un artiste. C'est là que l'art devient le vôtre. Et le même principe s'applique à la pratique. La curiosité et l'ingéniosité changent tout lorsque vous apprenez à questionner vos vieux schémas et à tester de nouvelles possibilités. C'est la raison pour laquelle il est tellement important d'être capable de se rendre dans un endroit silencieux et isolé comme celui-ci, où vous pouvez vous extraire de votre train-train ordinaire, commencer à aérer l'esprit et commencer à questionner les attitudes qui semblent à l'œuvre dans votre vie quotidienne. Vous commencez à les démonter et à vous rendre compte qu'elles ne fonctionnent pas si bien que ça, qu'elles créent beaucoup de souffrances inutiles. Comme le Bouddha l'a dit, le simple fait de vivre en tant qu'être humain implique de la douleur. Il y a la douleur du corps, la douleur d'avoir à dépendre des choses. Nous avons ce corps qui a besoin de nourriture, et afin d'obtenir de la nourriture, nous devons travailler. Nous sommes obligés de compter sur le travail d'autres personnes. C'est un vrai fardeau pour toutes sortes de personnes et d'autres êtres vivants. Un fardeau qui fait partie intégrante de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Aussi longtemps que vous êtes vivant, ce fardeau est inévitable. Mais il y a aussi beaucoup de souffrance qui est totalement inutile. Les choses que nous nous infligeons à nous-mêmes en raison de notre manque d'habileté dans la manière de gérer notre esprit. C'est une chose sur laquelle nous pouvons travailler au cours de la méditation. Apprendre comment gérer plus habilement les problèmes lorsqu'ils apparaissent. Reconnaître quels sont les schémas de pensée qui sont habiles et qui ne conduisent pas à la souffrance. Quels sont les schémas qui sont malhabiles et qui conduisent à la souffrance. Apprendre comment arrêter d'agir, de penser, et de parler de manière malhabile. C'est là toute notre pratique. Lorsque nous arrêterons de faire des choses malhabiles, la souffrance inutile que nous nous infligeons cessera. Il se peut qu'il y ait des sensations de douleur dans le corps, mais il n'y aura pas de souffrance dans l'esprit. Donc, la pratique consiste à développer des habiletés. Les cultures anciennes établissait une distinction entre deux types de connaissances, la connaissance du scribe et la connaissance du guerrier. La connaissance du scribe est la connaissance qui peut être définie avec des mots. La connaissance du guerrier est la connaissance qui provient de l'action, du développement d'une habileté. Et même si nous avons besoin de compter dans une certaine mesure sur une connaissance de scribe lorsque nous méditons, la méditation elle-même développe une connaissance de guerrier. Nous apprenons des mots dans les textes afin de pouvoir obtenir une idée générale de ce qu'est le problème et de ce qu'il faut faire. Mais la connaissance véritable sur laquelle nous travaillons provient du développement de l'esprit. En pali, On appelle cela Bhavana Maya Panya, le discernement qui provient du développement. En d'autres termes, lorsque vous essayez de développer la concentration dans l'esprit, vous commencez à vous rendre compte de choses que vous ne connaissiez pas auparavant à propos de l'esprit. Lorsque vous développez Sati, lorsque vous développez la persistance, toutes ces qualités que vous travaillez pour les cultiver, vous commencez à apprendre à propos de l'esprit des choses qui étaient auparavant cachées, obscures. C'est là le type de vision pénétrante, le type de discernement qui va vraiment faire une différence. Donc, lorsque vous méditez, considérez que vous êtes un guerrier qui livre bataille à l'ignorance. Vous travaillez sur une habileté de guerrier, la survie de l'esprit, avec aussi peu de souffrance que possible. C'est dans cette direction que vous travaillez. Mais vous devez comprendre ce que signifie être un guerrier intelligent. Les gens qui ne sont pas des guerriers ont glané toutes sortes d'idées bizarres à propos de ce que font les guerriers, pensant qu'ils doivent attaquer toute chose dès qu'elle apparaît, qu'ils ne peuvent pas céder un pouce de terrain à qui que ce soit. Ce type de guerrier est un guerrier idiot, un guerrier qui va mourir jeune. Un guerrier intelligent accepte de livrer des batailles seulement lorsqu'il se rend compte qu'il peut les gagner et qu'elles valent la peine d'être gagnées. En même temps, un bon guerrier utilise tout ce qu'il a à portée de main. Nous avons parlé aujourd'hui des cas où nous pouvons avoir besoin de nous replier sur Budo comme technique de méditation de niveau école primaire. Eh bien, si c'est ce dont vous avez besoin, n'ayez pas honte de l'utiliser. Un bon guerrier n'a pas honte d'utiliser n'importe quelle arme, pourvu qu'elle marche. Quelles que soient les armes qui sont nécessaires pour la bataille en cours, ce sont celles-là que vous devez utiliser. C'est la raison pour laquelle un bon méditant conserve de nombreux outils, de nombreuses armes sous la main, parce que lorsque les souillures arrivent, elles n'arrivent pas sous une seule forme. Elles n'attaquent pas toujours du même côté. Parfois, l'esprit se sent paresseux et il fait preuve de beaucoup d'ingéniosité pour penser à des raisons de relâcher l'intensité de la pratique. Parfois, il se retourne contre lui-même et il commence à se rudoyer parce qu'il ne travaille pas de plus en plus dur. Eh bien, cette rigueur, cette sévérité, peut également constituer une souillure si elle n'est pas utile pour la méditation. C'est là où les choses deviennent vraiment difficiles, car souvent les souillures peuvent se faire passer pour la voie du Dhamma. Vous devez faire attention à cela. Lorsque vous n'êtes pas tout à fait sûr si ce que dit l'esprit est vrai ou faux, habile ou malhabile, retournez simplement à la position d'observateur. Regardez l'activité de pensée dans l'esprit simplement comme un processus d'apparition et de disparition dans lequel vous n'êtes pas obligé de vous impliquer. Au minimum, vous survivrez, quelle que soit la chose qui traverse l'esprit. Et souvent, vous aurez une chance de le comprendre. Vous commencerez à voir que ceci va avec cela, que cela va avec ceci, que lorsque vous pensez de cette manière-ci, alors ceci va se produire, que lorsque vous pensez de cette manière-là, alors cela va se produire. Lorsque vous aurez vu ces liens, ensuite, la prochaine fois où ce type de pensée apparaîtra, vous serez mieux armé, mieux préparé. Donc, lorsque vous méditez, vous disposez de nombreuses techniques. Vous avez Budo, vous avez la respiration, vous avez votre capacité à analyser les choses lorsque l'analyse marche, vous avez votre capacité à rester calme lorsqu'elle ne marche pas. En d'autres termes, en tant que méditant, vous devez être capable d'utiliser habilement de nombreux types d'approches, tout comme un guerrier doit être capable d'utiliser habilement de nombreuses stratégies. Cela revient à la chose suivante. Quelle que soit la chose qui marche pour faire disparaître la souffrance de l'esprit, quelle que soit la chose qui empêche l'esprit de créer des fardeaux pour lui-même, quelle que soit la technique qui fonctionne, on peut considérer cela comme étant le Dhamma, que cela soit ou non dans les textes, que vous l'ayez entendu ou non du maître. Après un certain temps, lorsque vous repenserez aux choses qui marchent, vous découvrirez qu'elles se répartissent en schémas. Mais ne soyez pas surpris si les schémas ne sont pas ceux auxquels vous vous attendiez. Après tout, d'où vos attentes viennent-elles? Elles proviennent de votre ignorance passée, combinée à votre connaissance passée, tout cela étant mélangé ensemble. Donc, lorsque toutes les choses que vous avez lues dans les livres ne marchent pas, asseyez-vous tout simplement et examinez le problème. Dégagez-vous-en. Retournez-le. Utilisez votre ingéniosité pour trouver une manière de le contourner. Si votre approche fonctionne pour soulager la souffrance inutile que l'esprit se crée, vous avez découvert un nouvel aspect du Dhamma. Lorsque vous arrêterez de créer de la souffrance pour vous-même, cela vous paraîtra également plus facile d'être habile et utile vis-à-vis des autres personnes. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas une pratique égoïste. Le principe de la bienveillance n'est pas qu'un vœu futile qui consiste à dire que tous les êtres vivants puissent être heureux et en rester là. En fait, cela signifie aussi être bon vis-à-vis de vous-même, ne pas créer la souffrance inutile que vous avez entassée pendant tout ce temps. Lorsque vous découvrez que votre esprit est moins accablé ainsi, c'est également plus facile de ressentir de la sympathie pour les autres personnes qui entassent des fardeaux dans leur esprit. Lorsque vous êtes soulagé de votre fardeau, c'est plus facile de les aider réellement. C'est la raison pour laquelle les bénéfices de la pratique ne sont pas seulement orientés vers l'intérieur, mais qu'ils vont également vers l'extérieur. Cependant, le véritable travail doit être fait ici même, à l'intérieur, en découvrant où se trouvent ces fardeaux inutiles, les idées pesantes, les notions pesantes que l'esprit entasse, qui lui disent qu'il doit réagir comme ceci, qu'il doit penser comme cela. Une fois que vous les avez découvertes, réfléchissez à la manière de les relâcher. C'est le type de bataille que vous voulez livrer, le type de bataille qui vaut vraiment la peine d'être gagnée. Et lorsque vous pouvez la gagner, votre victoire constitue un cadeau non seulement vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis de tout le monde autour de vous.